Seigneur, nous venons tel que nous sommes devant toi, afin que tu puisses continuer à nous laver, à nous orienter et nous mettre toujours sous ta volonté. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette commémoration que nous venons de faire. Béni aussi chacun de nous, afin que la communion que nous avons à toi soit vivante dans la vie de chacun de nous. Maintenant, Seigneur, nous sommes prêts à t'écouter. Parle à tes enfants, Seigneur, à travers ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu nous bénisse.
La grâce de notre Seigneur soit avec chacun de nous. La parole de Dieu vient de deux textes, Genèse chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Et puis on va prendre Deutéronome, le chapitre 6. On va lire le verset 4 jusqu'au verset 9. Genèse 17, verset 8. « Je te donnerai en te descendant après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Parole du Seigneur, Deutéronome 6, 4 en 9. Deutéronome 6, 4 en 9. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur les mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur la porte. » Parole du Seigneur. Nous parlons du service aujourd'hui. Le service et son impact sur les générations futures dans le cadre de l'alliance avec Dieu. Nous pouvons remplacer service avec la vie. La vie et son impact. Ma vie et son impact. Ta vie et son impact sur les générations futures dans l'alliance avec Dieu. En fait, notre Dieu, c'est le Dieu des générations. On l'appelle Dieu d'Abraham. Là, c'est une génération. Isaac, c'est une autre. De Jacob. Peut-être même de Moïse, des prophètes et des disciples et de nous-mêmes aujourd'hui. Donc, il est le Dieu de toutes les générations. Il dit à Moïse, je te donnerai la terre. Et il dit directement, et à ta génération. Ta génération va posséder cette terre en perpétuité. Et donc, il ne s'adresse jamais à un individu sans parler de sa génération. Deux éléments vont nous permettre de comprendre la leçon d'aujourd'hui. On va parler de la famille. On va parler de la famille parce qu'on voit que l'Éternel s'intéresse aux générations qui passent par la famille. Et puis, on va prendre trois stratégies qui peuvent permettre à chacun de nous d'impacter les futurs. Génération. Ces trois stratégies sont écouter Dieu, écrire sa parole dans le cœur et témoigner. Écouter Dieu, écrire sa parole dans le cœur et témoigner aux futures générations. Alors, commençons par la famille. La famille, c'est parmi des très anciennes institutions que Dieu a lui-même instituées. Et quand nous lisons beaucoup de textes de la Bible, nous remarquons en fait qu'elles sont écrites dans un contexte de la famille. Quand vous lisez la Bible, vous trouvez qu'il y a beaucoup de textes. Dieu parle des hommes, des maris, des femmes, des enfants et de tout cela que nous pouvons avoir de la famille. Donc la famille intéresse beaucoup Dieu. De sorte que là où nous avons lu, lorsque Dieu parle à Abraham, il dit, je te donnerai, il dit, et à tes descendants. Donc, il ne veut pas oublier les descendants. Je te donnerai à toi et à tes descendants ce pays où tu habites. Tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon les générations. Donc, la famille, c'est un élément très important. Et lorsque nous lisons en Exode, le chapitre 10, le verset 1 à 2, là, cette fois-ci, Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. » Alors, il continue. « Je me rassure que vous allez raconter ces signes et ces miracles à qui ? Aux enfants ? Il va jusqu'aux grands-enfants. On les appelle des grands-enfants, aux petits-enfants, parce que les adultes s'appellent grands-parents. Donc, il n'oublie pas la famille. Il parle à Moïse. Il se rassure que Moïse va amener ce message aux petits-enfants. Comment il le fera? Aux petits-enfants. Pour cela, alors, Dieu suscite des situations. Il suscite des événements. Il crée un environnement qui vous permet, vous, de parler aux enfants et aux futures générations. Déjà, nous sommes dans un événement, n'est-ce pas? À Goma, nous sommes dans un grand événement. Et je suis sûr que vous, qui avez encore les plus petits, vous avez eu des questions. Mais papa, les balles viennent d'où? Mais qui est en train de tirer? Qui sauce? Ils viennent d'où? Qu'est-ce que vous avez répondu? Vous devez avoir eu des questions terribles pendant cet événement. Dieu crée des événements. Parfois, ce n'est pas lui qui les crée, mais quand les événements sont là, il profite des événements. Et ça permet qu'il puisse y avoir un dialogue entre les générations d'aujourd'hui et les générations futures. Si vous demandez aux générations, parce qu'ils vont raconter que ce n'est pas nouveau, ils vont vous dire, nous aussi, c'était comme ça. Les années 1960, c'était grave. Ils vont vous raconter, Dieu crée des événements pour permettre à ce que nous puissions dialoguer avec les générations qui vont rester pendant longtemps, lorsque nous serons déjà partis. Et donc, quand vous lisez en Exode, le chapitre 12, le verset 26-27, Dieu dit, et lorsque vos enfants vous demanderont, ils vous diront, que signifie pour vous cet usage? C'était en fait la Pâque. Alors, le verset 27 dit, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel. Parce que l'ange est passé, quand nous étions en Égypte, l'ange est passé. Il nous a épargnés. Mais il a frappé les Égyptiens. Il crée un événement. Il crée une situation qui vous permet de parler. Mais pourquoi nous prenons le pain sans levain? Mais pourquoi avec la viande rôtie et avec des feuilles amères? Ah, c'est la Pâque. On se rappelle de ces jours-là. L'ange est passé. Il crée des événements. Et les meilleures questions, c'est souvent les questions qui se posent lorsque vous travaillez avec les enfants, lorsque vous travaillez avec les futures générations. Et nous lisons à Genèse, le chapitre 22, Le verset 7, l'histoire d'Abraham qui est en route avec son fils pour aller faire le sacrifice. Alors le verset 7 dit que Isaac a posé la question, « Mais papa, nous avons le feu. Et alors, où est l'agneau ?» Ça signifie que ce n'était pas la première fois que Isaac participe au sacrifice. Hein? Il savait qu'il faut l'agneau. Donc, Dieu crée un événement. Nous avons le feu, papa. Et là, ils sont en plein travail. Nous avons le feu, papa. Mais où est l'agneau? Question difficile, hein? Qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Dieu pourvoira. Est-ce qu'Abraham savait que Dieu va pourvoir? C'est cela, les questions difficiles qui sont posées toujours, chaque jour aux parents. Nous, le pasteur, je l'ai suivi, prier pour longtemps par rapport au chômage que nous traversons. Je connais un frère qui était en chômage. Et le chômage s'est prolongé jusqu'à l'époque, jusqu'à la période de Noël. Alors, la veille de Noël, il a trouvé qu'il n'a rien. Il est allé au lit. Mais sa fille, son fils, est venu le trouver au lit. Il dit, papa, Noël et Elisha ont déjà quoi vos merveilles. Naïetou, il t'a déjà ça à gagner. Je suis sûr que le papa et la maman reçoivent des questions comme ça. Comment un parent peut répondre à cette question? Noël a déjà commencé chez Merveille. Notre Noël va commencer quand? Bon, papa a dit, il t'a déjà tout. Ben, il a été obligé pour que Noël ait Ange. Parce que Elisha a déjà quoi vos merveilles? Donc c'est ça, Dieu crée les événements. Et alors, un des événements qui a été dans la vie d'Abraham, c'est celui-là. Où est l'agneau? Nous avons les faits, nous avons tout. Et Abraham a dit, Dieu pourvoira. Et effectivement, Dieu a amené l'agneau. Ça signifie que Isaac a vécu, sachant que Dieu peut pourvoir. Oui, donc, même quand vous donnez une réponse à peu près, si vous vous confiez au Seigneur, il va vous sauver. Isaac a vécu, sachant que Dieu peut pourvoir, Dieu a pourvu et Dieu nous a amené l'agneau. Parce que mon père m'avait dit que Dieu pourvoit. Dieu sait que la famille n'a pas que des enfants. La famille a beaucoup de choses, a beaucoup de gens. Et ces gens-là sont aussi concernés par l'Alliance. Lorsqu'on lit Exode, le chapitre 20, plus particulièrement le verset 10, la parole de Dieu dit, la parole parle du sabbat. Elle dit ce qui suit. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Alors la parole continue, elle dit, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs, ni tes servantes, ni quoi? Ni tes bœufs, ni ton bétail, ni l'étranger qui vit chez toi. Donc l'Alliance ne s'intéresse pas à toi seulement. Elle s'intéresse à toi, à tes enfants, à ton bétail, à tout ce que tu as. Dieu s'intéresse à tout. Le sabbat doit aller jusqu'à tout. Ça signifie que tout ce que nous avons est concerné par l'alliance que nous avons avec notre Dieu. Mais les enfants, plus particulièrement, parce qu'ils constituent la génération future et la jeunesse qui est au milieu de nous. Ils constituent la génération future. Et généralement, comme vous avez attendu, ces gens-là posent toutes les formes de questions. Pas pour nous tenter, mais parce qu'ils veulent comprendre ce qui est autour. Et donc, à Deutéronome, chapitre 6, 21-22, la Bible dit, « Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, nous a prescrites, dites-lui honnêtement que nous étions esclaves de Pharaon. Nous étions en Égypte. Et Dieu nous a sauvés de là par une main forte. Ils ont besoin de la franchise et des gens qui parlent avec honnêteté. Souvent, ça manque à nous qui avons grandi et les parents, l'honnêteté. Nous avons pris la Sainte Cène. Je suis sûr que les enfants vous ont déjà posé la question. Mais papa, quand vous prenez le pain, parce que mon atouimak, quand vous prenez le pain et la coupe au temple, c'est pourquoi? Dieu a besoin de parents honnêtes qui disent, j'étais pécheur et Jésus m'a sauvé. Et donc, quand je prends le pain, je fais quoi? Je célèbre le salut. Bon, je suis sûr que l'enfant ne va pas te donner cette occasion de dire cette longue phrase. Parce que dès que tu dis, j'étais pécheur, il dit, ah, tu étais pécheur, papa? Et tu faisais quel péché? Oh, alors, ça devient complexe. Les questions des enfants. Ils ont besoin de personnes honnêtes. Tout comme tout le monde peut se lever ici. Et toi, papa, tu ne te lèves pas. Ah, il faut s'attendre que l'enfant va dire, papa, tous les papas ont allé prendre le pain. Et toi, tu n'as pas pris pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Et c'est ça l'occasion de mentir. Beaucoup de gens mentent à la nouvelle génération. Et donc, si nous mentons à la nouvelle génération, nous aurons une nouvelle génération de menteurs. Le Seigneur cherche des personnes qui parlent avec honnêteté, qui disent, nous étions esclaves. Nous étions en Égypte et c'est là que Dieu nous a tirés par une main forte. Alors là où nous avons lu, il y a un grand événement qui constitue l'alliance. Et ce grand événement s'appelle quoi? Circoncision. N'est-ce pas? On a lu ça en Genèse 17. Le grand événement, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Un grand événement, la circoncision, ça ne peut pas passer inaperçu. Ouais, Dieu ne signe jamais des alliances en secret. Est-ce qu'on peut être circoncis en secret? Bon, les générations d'aujourd'hui peuvent être circoncis. Mais demandez aux générations d'il y a 40 ans, surtout ces villageois-là, comment on faisait la circoncision au village? C'est un grand événement. D'abord, on venait vous attraper quand vous êtes en train de tirer votre tsukudu ou votre petite voiture. Soudain, les gens viennent vous attraper. Et puis, on vous amène quelque part. Et puis, vous dites, mais c'est quoi? Quel est le problème? Et puis, on n'était pas tout petit, on avait déjà grandi. L'âge de 5, 6 ans, même 7 ans. Il y en a ceux qui ont été circoncis après même 10 ans. Grand événement. Donc, Dieu ne fait pas une alliance en secret. Grand événement. Et quand vous lisez à Josué chapitre 5, un grand événement. Un grand événement. Dieu dit à Josué, chapitre 5, en commençant au verset 2, il faut circoncire tout le monde. Vous savez qui était ce tout le monde? Ceux qui étaient circoncis, ce sont ces gens-là qui étaient venus d'Égypte. Et pendant 40 ans, les gens n'étaient pas circoncis. Il y avait donc combien de gens non circoncis? Il y avait des pères non circoncis qu'il fallait circoncire avec leurs enfants. Peut-être même avec leur beau-fils et leur beau-père. Grand événement. Josué avait du pain sur la table. La Bible dit que Josué a préparé les couteaux. Vous allez lire ce texte. Il a préparé les couteaux et c'était des couteaux à pierre. Circoncision de pas moins de 100 000 personnes. Oh. Tous les villages circoncis. Ça peut passer vraiment inaperçu. Si vous essayez d'aller vous circoncire, ça ne peut pas passer inaperçu. D'ailleurs, quand vous venez de cette colline de circoncision, qu'on a appelée ici Gilgal, on ne va pas vous mettre la culotte. Vous êtes circoncis. Oui, n'est-ce pas? Et votre marche va changer. La marche de circoncis est connue. Donc, tout le monde va poser la question, pourquoi il est à Jupe? Bon, vous lisez à Babayak. Il est circoncis. S'assure que les enfants ont crié si tu n'as fait nini. Non seulement les enfants, mais aussi les parents. Et donc Dieu donne un événement qui permet de raconter pourquoi nous sommes circoncis. Dieu ne pouvait pas permettre à ces gens de prendre la Pâque incirconcis. Après avoir été circoncis, alors ils pouvaient célébrer la Pâque. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous devons nous circoncis. Nous devons être circoncis. Vous qui êtes déjà circoncis, vous devez circoncire les non-circoncis. Aujourd'hui, la grâce qu'il nous a faite, c'est que la circoncision n'est plus la circoncision de la chair, c'est la circoncision du cœur. Le Saint-Esprit, quand il entre à nous, nous sommes circoncis. Il nous transforme, il nous régénère. Nous ne pouvons pas célébrer la joie du salut lorsque nous sommes encore impurs et que nous ne sommes pas circoncis. Tout ce que je viens de raconter là, c'est fait en famille. Donc, pour Dieu, la famille est très importante. Il n'y a nulle part où Dieu enseigne bien qu'en famille. L'école s'appelle famille. L'école ne s'appelle pas temple. L'école ne s'appelle pas école de dimanche. L'école s'appelle la famille. Et donc, Dieu s'intéresse beaucoup à la famille. Alors, vite, prenons les trois stratégies qui vont nous permettre d'impacter dans la génération future. Première stratégie, écoutez Dieu. Écoute Dieu d'abord. Ne fabrique pas la leçon. Écoute Dieu. Écoute Israël. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dieu parle et Dieu nous demande de l'écouter. Et ce que nous avons écouté, il nous demande de le transmettre aux autres. Il dit écouter et il dit aimer. C'est-à-dire, lorsque nous avons écouté, il vient directement la loi, le commandement que le Seigneur nous demande de faire. Et les lois, la loi dont il parle ici, c'est aimer. Et vous savez que quand on lit en Jean chapitre 14, aimer signifie garder les commandements. Donc, quelqu'un ne peut pas dire « j'aime » et puis il ne garde pas les commandements. Donc, écouter et faire, c'est la même chose. D'ailleurs, ça se dit très bien dans nos langues maternelles. Parce que quand tu dis « uyu mutoto anasikiaka », ça signifie qu'il fait. Mais quand tu dis « uyu mutoto asikiaka », ça ne signifie pas qu'il n'a pas d'oreille. Mais ça signifie tout simplement que tu lui parles, il ne fait pas. Donc, le Seigneur nous demande d'écouter et de faire. Nous ne pouvons pas écouter et puis après, nous ne savons pas faire. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est aimer. C'est aimer l'autre. Deuxième chose qu'il nous demande de faire, c'est transmettre ses commandements aux enfants, aux nouvelles générations. Donc, lorsque nous ne transmettons pas ces commandements aux nouvelles générations, c'est-à-dire nous n'écoutons pas. Nous sommes de la catégorie déjà de Hawa Watoto, Hawa Sikiaki. Parce que quand je leur demande de transmettre mes commandements aux nouvelles générations, ils n'écoutent pas. Ils ne les font pas. Donc, écoutons Dieu d'abord, et puis nous allons enseigner après. Et quand nous enseignons, après avoir écouté, souvent, notre enseignement a de l'impact parce que ça devient un enseignement de la vie. Donc, première stratégie, rassurez-vous que vous écoutez Dieu chaque jour. Parce que Dieu parle chaque jour. Deuxième stratégie, la stratégie ici, c'est écrire, graver la parole de Dieu dans nos cœurs. La parole de Dieu doit être écrite dans nos cœurs. C'est ça le verset 6 de Deutéronome 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Le problème du commandement de Moïse, c'est que ce n'était pas dans le cœur. Le commandement de Moïse était écrit sur des tablettes, sur des pierres. Alors que le péché se fait où? Le péché ne se fait pas sur les tablettes. Le péché se fait dans le cœur. Donc, amener une loi des tablettes au cœur, c'était difficile. C'est donc une loi qui agit de l'extérieur, qui pousse les gens de l'extérieur, qui devient alors une corvée. Alors le Seigneur a compris que ça ne va pas. Une loi écrite sur les pierres ne peut pas transformer le cœur. Il faut alors qu'il change de stratégie, qu'il écrive la loi dans le cœur. Et c'est ce que nous lisons déjà à Jérémie, chapitre 31, verset 33. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, je mettrai ma loi au-dedans de vous. Je l'écrirai dans le cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La loi est maintenant écrite dans le cœur. Ça devient différent. Nous agissons par le cœur. La loi est la même, hein? Tu ne mentiras pas. C'était écrit sur la tablette. Tu ne voleras pas. C'était écrit sur la tablette. Tu ne pratiqueras pas l'adultère. C'était écrit sur la tablette. Mais à quoi cela était difficile? Est-ce que nous volons? Est-ce que nous mentons? Est-ce que nous pratiquons l'adultère? Pourquoi c'est si simple aujourd'hui? Parce que ça n'agit plus à partir des tablettes, mais ça agit à partir du cœur. Le Saint-Esprit entre en nous. Il vit dans le cœur. Il donne la loi à partir du cœur. Toute chose que vous faites à partir du cœur se fait avec joie. Mais toute chose où on vous pousse à partir de l'extérieur, ça devient une corvée. On réagit, on refuse, parce que ça vient de l'extérieur. Alors donc ici, ça vient de l'intérieur. L'Esprit nous pousse à l'intérieur, parce que l'Esprit nous régénère. Paul a écrit ça à Timothée, chapitre 3, verset 5. Nous sommes sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Et donc, agissons à partir du cœur. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans le cœur. C'est pour cette raison, en fait, que cette année, c'est une année d'action. De la parole à l'action. Vivre l'intégrité et la fidélité. Il n'y a pas d'action si ça ne vient pas du cœur. Il n'y a pas d'action qui parle mieux que ce qui trouve la source dans le cœur. Et je voudrais revenir à ce que nous avons fait le dimanche passé. Vous savez que nous avons voté un budget de pas moins de 285 000 ou 284 500 000 pour l'année 2025. Pour que tu puisses donner ici, il faut que ça soit une loi qui vient du cœur. Je ne sais pas ce qu'on va faire pour que cette loi sorte des tablettes, des papiers. Parce que c'est écrit dans les papiers maintenant. La loi dit, le budget de Gomaville est de 284 500. Ça, c'est encore sur les tablettes. Il faut alors que nous puissions y travailler pour que ce budget soit écrit dans le cœur des gens. Et comme ça, les gens vont répondre. Parce que l'initiative vient du cœur, mais pas plus parce que ça vient de communiquer ici à la chair. Si ça ne va pas dans votre cœur, ça sera une corvée. Ah, t'es à 2400, 280 000. Oh, ton akouf. C'est une corvée parce que c'est écrit sur les tablettes. Il faut ramener cet élément-là dans le cœur. Et alors, votre main va donner pas éloigné du cœur. La main va donner parce que c'est une initiative qui vient du cœur. Alors, ce commandement doit être écrit dans le cœur. La dernière stratégie, c'est le témoignage. La génération future entend le témoignage. Les pères, les grands-pères qui sont ici, vous qui avez déjà vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans avec Jésus, la génération future entend le témoignage. Je comprends pourquoi on ne devient pas grand-père pour rien. On devient grand-père parce qu'on peut raconter des histoires. Hein? Oui, oui. Si le petit-fils vient poser la question, vous avez des histoires. Comment quelqu'un peut faire 40 ans avec Christ sa histoire? Qui peut raconter à quelqu'un qui vient de croire à Jésus aujourd'hui, qui est un enfant? ou même un enfant qui veut entrer dans un ministère. Comment vous pouvez faire tout ce talent sans raconter une histoire qui peut édifier une nouvelle génération? Ça signifie que vous avez perdu ce temps pour rien. Vous ne pouvez pas raconter quelque chose, des témoignages de la marche que vous avez fait avec Dieu. En fait, je veux dire à la nouvelle génération que ces gens qui ont marché avec Dieu ont des histoires, si réellement ils ont marché avec Dieu. C'est souvent caché. Par exemple, vous ne pouvez pas savoir que j'ai joué à la guitare, que je peux solfier. Je peux dire « Do, mi, so, do ». Vous ne pouvez pas, il faut seulement m'amener la guitare pour voir que, oh, c'est vrai, il a chanté dans la chorale. Vous ne pouvez pas savoir que le vice-président a été dans la chorale. Oui, il faut seulement lui poser la question. Il dit, oui, on chantait dans la chorale, on allait au baptême. Même si on utilisait, nous, on ne chantait pas à par cœur, mais on avait des registres dans lesquels on lisait, mais on a chanté. Donc, nous avons des histoires à raconter aux nouvelles générations. On ne peut pas marcher avec Dieu sans avoir des choses à raconter à ceux qui vont vivre après nous. Parce que lorsque nous serons partis, il faut qu'ils se rappellent qu'on nous a dit ceci. Ces gens ont marché comme ça avec Dieu. Si cela ne se fait pas, nous perdons notre temps. Et donc, Dieu crée des occasions. La paroisse peut aussi créer les occasions pour que les anciennes générations racontent aux nouvelles générations comment ils ont marché avec Dieu. Parce que c'est ce que ces générations demandent. Et alors, lorsque nous travaillons, lorsque nous témoignons, attention, il faut que nous fassions tout pour que la parole entre dans leur cœur. Si nous travaillons sur leur comportement, sur être poli, sur la morale, ça ne va rien changer. Il faut se rassurer que la parole qu'on enseigne à la nouvelle génération entre dans le cœur. C'est à partir du cœur qu'elle voit la grande transformation. Nous avons beaucoup de choses que nous avons apprises des parents parce que c'était imprimé. Les versions anglaises disent c'est imprimé. Ils ont imprimé des choses dans nos cœurs. C'est indélébile. Ils ont imprimé des choses. Ils ont imprimé des comportements dans nos cœurs. Et nous ne les oublierons pas parce que c'était imprimé. Ça s'imprime quand? Dans tous les aspects de la vie. Le texte que nous avons lu nous a dit à la maison, quand vous êtes en voyage, quand vous dormez, quand vous vous levez. Elle a même continué à dire, vous pouvez les écrire sur vos mains. Les scribes et les pharisiens ont essayé de vivre ça littéralement. Ils écrivaient les lois sur les mains. Mais le problème, c'est que c'était sur les mains, mais ce n'était pas écrit dans le cœur. Et Jésus a été, non, non, ce que vous faites, c'est la blague. Il faut que la loi soit écrite dans le cœur. Et quand elle est écrite dans le cœur, elle transforme la main. N'est-ce pas? Oui. Moi, j'ai essayé de faire une réflexion sur comment la loi peut transformer la main. Nous connaissons tous le travail de la main. La main fait quoi? La main donne. La main frappe. Il y en a des mains qui giflent. Bon, mais frapper n'est pas toujours mauvais. Hein? Parce qu'on peut frapper pour corriger. Mais il faut seulement savoir quand tu as frappé pour corriger ou quand tu as frappé comme signe de méchanceté. Même toucher, la main touche. Il y en a ceux qui touchent trop mal. Hein? Ils te touchent, vous dites, ah, ça, ce n'est pas vraiment bien touché. Ils touchent trop mal. La main montre ce qui se trouve dans leur cœur. Ouais, la main montre. La main peut montrer le chemin pour dire Unapotea, nji anjoi. La main qui est liée à la loi. La main peut stigmatiser, n'est-ce pas? La main peut dire Unaona ole mwenye anapita. Ule njo mulozi mwa hii karti. La main. Alors, quand nous écrivons la loi sur la main, sur les frontaux, posons-nous la question d'abord si la parole est déjà dans le cœur. Parce que c'est le cœur qui fait agir nos mains, nos bouches, nos yeux, nos pieds, afin que nous puissions servir conformément à la loi et à l'alliance. Alors, frères et sœurs, vous voulez servir la génération future par votre vie. La famille. La famille n'est pas seulement là où il y a le père, la mère, les enfants, mais nous avons vu qu'il y a des bétails aussi, il y a des étrangers. La famille, c'est aussi partout où vous vivez. Gomaville est devenue notre famille, hein? Donc on peut faire l'impact ici. Gomaville, c'est ma famille. Là où vous travaillez, c'est votre famille. Ouais, si vous êtes au marché, c'est votre famille. Si vous êtes dans un bureau, dans un ONG, c'est votre famille. Et deux, les stratégies. Écoutez Dieu. Toujours, ne fabriquez pas. Écoutez Dieu. Rassurez-vous que la parole est imprimée dans le cœur. Et ayez des témoignages. Ayez des témoignages vrais, vécus avec Dieu. Et vous serez en train de servir les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de toutes les générations. Que Dieu bénisse la parole. Amen.